gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Notre invité appartient aux grands de la radio. Il y a consacré une grande partie de sa vie, pour ne pas dire sa vie entière, et dans une seule et unique station qui a marqué l'histoire, CKVL. Né en 1929, il a été le témoin d'une époque pour le moins palpitante et sa mémoire est toujours vive. Avec nous, José Ledoux, bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour.
Vous avez, j'imagine, un tas de souvenirs en tête parce que vous avez passé 38 ou 39 ans à CKVL.
Je suis entré en 52. Et on m'a mis dehors en 88, 89. Ou... Ça fait déjà 25 ans que je ne suis plus devant le micro. Je suis gêné. Je suis très heureux que vous ayez pensé à un vieillard qui croupit. J'ai pas la croupe que j'avais, mais je croupis. Voilà.
Que retenez-vous de cette vie radiophonique?
J'ai passé comme un souffle sur le monde, ou à peu près, parce que tout a été... canalisé, orchestré, et j'ai tout simplement suivi le flot de la rivière, et j'aboutis avec vous ici aujourd'hui. Ma vie a été un miracle.
Et ce miracle, ça a été incarné dans une station qui a fait époque, c'est
ouais,
KVL.
Tout à fait.
Où il y avait une régularité au plan de ceux qui y travaillaient. Des gens qui ont fait des carrières majestueuses. On pense à des gens comme Clovis Dumont, Blaise Gouin.
Vous me rappelez des souvenirs.
Oui. Mais on restait à CKVL.
Ben, moi, c'est parce que j'étais père de famille. Et puis, j'avais appris que la famille, c'était important. Alors, pour nourrir mes trois enfants, j'avais un salaire de base, j'avais une sécurité, j'avais le syndicat qui est arrivé, qui a fait qui nous a donné une augmentation de salaire appréciable à l'époque. Alors, moi, je suis resté à CKVL, j'étais heureux, puis le patron, M. Jack Titleman, je l'ai toujours apprécié. C'était tranchant, cassant, direct, mais on savait où on allait. Si ça fait pas l'affaire, il nous le disait. Puis il attendait pas trois jours, trois semaines. Prenons Jacques Normand qui s'est fait mettre dehors combien de fois. Mais c'était Jacques Normand. Il revenait.
Qu'est-ce qui suscitait la colère de Jack Titleman?
Oh là, par exemple.
Parce que vous disiez qu'il s'était cassant. Qu'est-ce qui était permis et qu'est-ce qui ne l'était pas sur les ondes?
La folie.
La folie.
Ça, il tolérait la folie. Mais jusqu'à un certain niveau, comme ma mère, mon père, disaient, oui, c'est bien, mais pas d'exagération. Jusqu'à quel niveau il pouvait le tolérer, je ne sais pas. Et puis, il y avait toujours son épouse, qui était une auditrice assidue. J'ai des difficultés à parler un peu, parce qu'il y a deux dents de mon vieux... Comment ça s'appelle ça, de mon... Dans ma bouche, j'ai deux dents en moins. J'attends...
Usé par la parole, probablement.
Non, 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 la vieillesse, tout simplement. Puis, dans le temps, quand j'étais jeune, à Magog, où je suis né, en 1929, je connaissais pas ça, la brosse à dents, puis la pâte à dents. On n'avait rien chez nous. On était 10 enfants, on avait de la nourriture, je me rappelle pas exactement ce que c'était, des patates avec de la sauce brune. Ça, je me rappelle de ça. Mais le reste, non. On devait avoir du cochon parce qu'on avait de vivants autour de la maison. On avait une vache, on avait des poules. Alors, ma mère nous concoctait de bons repas, juste parce que j'ai toujours été assez en forme, physique.
Est-ce ce besoin de fournir, finalement, des victuailles à la famille qui vous a amené à travailler très jeune?
J'ai été poussé par les événements. J'étais à Magog et je m'occupais du corps de Clairon. Je m'occupais de la jeunesse étudiante catholique. De tout ça. Et puis, j'étais dans les pièces de théâtre. Alors, un des frères qui avait bien confiance en moi, il m'a dit « J'aurai quelque chose pour toi à Montréal, si tu veux. » Certainement. Alors, je suis entré au Buissonnet. y a probablement des auditeurs qui vont dire « Ah, quoi, le Doubs au Buissonnet? » Mais oui, j'étais là. J'avais 16 ans et j'étais en charge de 170 mouilleurs de lit. Non, j'en avais 170 enfants, dont 40 mouillés de lit. Alors, à l'époque, et on était sur les bords du Richelieu, où mes parents sont venus me conduire, ma mère en pleurs. J'avais 16 ans. Et c'est loin, ça, en 1946.
Et qu'est-ce que vous faisiez, précisément?
Je m'occupais des enfants, la garde des enfants, la discipline. Rarant! Qu'est-ce qu'on disait comme prière? Bénédicité, la prière avant le repas.
La prière à Sainte-Thérèse, non?
Non, c'est venu plus tard, ça. La prière à Sainte-Thérèse, j'ai appris ça plus tard, quand j'étais à Montréal, avec la chapelle de Sainte-Thérèse sur la rue Sainte-Catherine, à Montréal.
On pourra y revenir à cette prière. Pour l'instant, on va entendre quelqu'un que j'avais bien connu, Marc Gélina.
Ah, ben oui, tout à fait.
Avec une première pièce qui lance bien cette émission. Ça s'appelle tout simplement « Avec une chanson ».
Avec une chanson fredonnée sans rime ni raison. Avec une chanson, on fait du soleil dans sa maison. Le chagrin s'en va autour de soi, prend la couleur de la joie, parce qu'on a chanté la la la. Avec une chanson, on repeint en bleu son horizon. Avec une chanson, on fait l'été aux quatre saisons. L'oiseau bat de l'aile, un arc-en-ciel, chasse la pluie, la vie est belle. Tout ça pour une ritournelle. Pourtant une chanson, ça peut faire la nuit, attrister sans raison, remplir de nostalgie. Il suffit d'un refrain et renaît le chagrin, lorsque la mélodie se fait mélancolie. Avec une chanson, le routier se donne de l'emprunt. Avec une chanson, c'est vrai qu'il est moins long le chemin. Parsemé de fleurs plein de bonheur, un simple couplet dans son cœur, et voilà rempli d'ardeur. Avec une chanson qui nous force à taper dans les mains. Avec une chanson, tu vois bien qu'on oublie ses chagrins. On suit la cadence et le cœur danse, il a suffi d'une romance. Et voilà, c'est ton jour de chance. La 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 la.
Marc Gélina avec une chanson. Marc Gélina, que vous avez bien connu, José Ledoux.
Ben, on a fait du théâtre à la TV. Mais je l'ai connu parce qu'il a composé une chanson en prévision pour les... pas les Jeux olympiques, mais en 67. Terre des hommes.
Terre des hommes.
Il avait composé quelque chose de merveilleux.
La ronde, amène-nous à la ronde.
Voilà, c'est ça que... ça ne me venait pas tout à l'heure. Je vous dis que j'en perds des bouts. Je suis rendu à 86 ans passés. Alors, j'ai un peu de mémoire, ou beaucoup de mémoire de tous les faits qui se sont passés dans ma vie.
Là, vous avez le temps de remémorer dans votre esprit tous ces événements que vous avez vécus. Est-ce que c'est l'aspect le plus difficile de vieillir que de ne plus être présent dans l'action?
La seule... vieillir, pour moi, c'est d'être seul. Ça, c'est la vieillesse. Parce que je suis encore assez en forme physique, malgré certaines tares. Je ne marche pas comme... je vois plus clair, ou à peu près... De toute façon, j'essaie de me plaindre. Je suis encore très vite alité. Non, plein de vitalité.
Oui, c'est bien ça. Fait que vous seriez prêt demain matin à nous refaire un bulletin de circulation si on vous en donnait la possibilité.
Oui, je pourrais à nouveau critiquer comme je le faisais jadis. Oh, j'étais un peu violent, je crois.
Mais je pense qu'on va pouvoir peut-être s'en rappeler, parce
Comment
qu'on
ça?
A un petit extrait. Je dois préciser, M. Ledoux, que ça n'a pas été facile de trouver un extrait d'un bulletin de circulation de José Ledoux, mais c'est grâce à un animateur radiophonique de Ville-Marie, dans le Témiscamingue, M. Guy Champoux, à qui on a fait appel pour essayer de trouver cet extrait qui nous a bien, avec bienveillance, adressé le court extrait qu'on va entendre. Mais auparavant, j'ai une petite surprise. Lucien Franchi-Jarreau, ça a
oui.
été présent longtemps, ça, à CKVL.
Tout à fait.
Il s'entretient avec Serge Bélair et il nous parle un peu, très rapidement, de cette époque radiophonique, à l'époque où on s'amusait aussi parfois de certains patrons, et je vous invite à écouter cet extrait qui va suivre.
On vivait intensément pour notre travail et on créait notre travail. Maintenant, tu n'as plus. On n'était pas embêté par les codes d'écoute. On n'était pas embêté par toutes ces choses-là.
Le bric-à-brac n'était pas encore arrivé. Non, et le tout à la poubelle non plus.
Paul-Émile Beaune vient de devenir directeur, je ne sais pas quoi, au poste à CGNS. Alors, il nous envoie un mémo. Puis, je m'en souviendrai toute ma vie. Ça, il nous envoie un mémo pour nous annoncer la bonne nouvelle et tout ça. Puis, une demi-heure après, il faisait le tour des bureaux pour voir la réaction du mémo. Et il arrive dans notre bureau et. Rocky Brisebois, toujours trading, il dit « Monsieur Bond, il dit, je vous remercie, nous avons pris connaissance de votre mémo, bien écrit en bon français, ce qui est assez rare des fois, mais je voudrais vous féliciter, mais quelque chose m'a touché. » Et là, il se penche dans la boîte à ordures et regarde partout dans ça.
Le mémo
est parti. On ne l'a plus revu. C'était fini.
Ça va mieux côté circule. On va aller à nouveau rencontrer José Ledoux à bord du mobile.
Malheureusement, non, ça ne va pas mieux. Il y a encore des retards considérables, à peu près 25 à 30 minutes de perte de temps en direction nord sur la 13 pour arriver du côté de Laval. Ce matin, on avait un pic concasseur qui était dans la voie de gauche. Il bloquait la voie de gauche. J'ai fait une plainte au ministère des Transports. J'ai dit, ça n'a pas d'allure.
Ils l'ont mis à droite.
Ils l'ont mis de l'autre côté. Ils ont dit, c'est vrai, on va s'en aller de l'autre côté. Mais là, ils ont oublié que en direction gauche, dans la direction nord le soir, il ne faut pas être dans la voie de gauche.
Ben ouais.
Il aurait fallu que tu sois dans l'autre côté, tu vois.
Ouais.
Ils sont juste trompés d'heure. Alors là, c'est hyper congestionné à cause des tatas qui sont là ce soir, qui bloquent une des voies en direction nord sur la 13. C'est vraiment... Je vais écrire au ministre des Transports encore une fois.
Fournir le timbre.
Pardon?
Je vais fournir le timbre.
Ah, bravo! Ben, il met 64 cents de timbre. Ça, alors, quand on lui fait des remarques, je vous jure qu'il est prêt à les prendre en bonne part et les met en pratique rapidement.
Je suis sidéré. Je capote. C'est pas possible. Mais ça date de 60 ans, ça?
1986.
Ah, si jeune encore.
1986, vous étiez en conversation avec André Liboiron de C'est quoi?
Ah là.
C'est en septembre 86.
J'en ai la chair de poulet.
Mais on voit le style que vous aviez, assez quand même vindicatif. Je vais me plaindre au ministre.
Ben, c'est la seule façon d'arriver à quelque chose. Comme je vous disais quand on était en auto tout à l'heure, vous avez eu la gentillesse de venir me chercher à la maison parce que je ne conduis plus ou à peu près pas. C'est que on est des petits nous. On chiale à la radio, on parle à la radio, on a un microphone, on est entendu, mais on n'est pas compris. Parce que c'est bien beau de dire « je t'ai entendu, ben oui. As-tu compris? » C'est pas tout de recevoir un message dans le cervelet, il faut faire travailler les méninges.
Oui.
Puis c'est très important, mais alors voilà.
Quand vous entendiez Franchi-Jarreau dire que, bon, c'était une époque assez particulière où on ne travaillait pas nécessairement en fonction de la cote d'écoute, mais plus en fonction du service à rendre au public.
Tout à fait. Parce que, mais même la cote d'écoute chez nous, je l'ai vécu un temps, parce que je devais prendre des vacances à une période donnée, préparée, entendue, et le patron a dit, ben non, il y a des cotes d'écoute, tu peux pas prendre tes vacances ce jour-là. Alors voilà. Mais il a été très gentil. Il m'a dit, je te donne 2 semaines de vacances, toutes payées, à Hawaï. À Hawaï. Alors j'ai pris les vacances, j'étais content. J'ai retardé un peu au bon vouloir de mon patron, M. Titleman. Mais seulement que j'étais à Hawaï, puis ça ne m'a pas coûté un sou.
Revenons à... Parce que vous avez parlé de vos origines à Magog. Qu'est-ce qui vous a amené, dans les années 50, à devenir annonceur ou présentateur dans une station radiophonique et, par surcroît, celle de CKVL?
J'étais au Buissonnet au départ, quand je suis entré à Montréal. C'est l'Institut Les Buissonnets pour des enfants bâtards, illégitimes, illégaux, orphelins, de 6 ans à 18 ans, à peu près. Alors, moi, j'étais là comme surveillant pour avoir mon gîte et ma nourriture. Et j'avais un énorme salaire de 6 $ par mois pour m'occuper des enfants au lever le matin. Benedicamus Domino. Deo gracias, que l'on répondait et l'on se levait. Ah ben, lève. Vous me reportez loin dans le temps. Alors, je m'occupais des enfants. Et puis, je suis devenu enseignant à 19 ans. Et d'un des élèves avait un buvard. Sur le buvard, c'est écrit Madame Diam d'Argental, professeur d'art dramatique et de diction. Mais comme j'avais fait du théâtre à Magog, avec les frères du Sacré-Cœur, j'avais joué 3 ou 4 années consécutives, j'étais content. Et puis c'est un peu grâce à ce frère que j'avais mon poste à Montréal. Alors je suis allé suivre des cours de phonétique, de diction et d'art dramatique pendant 3 ans pour apprendre à parler avec un petit air comme celui que je vous donne présentement. Je disais la bouche entre cul de poule pour avoir une bonne prononciation et ainsi de suite. Alors j'étais prêt à devenir annonceur. Et je pensais à Miville Couture. Il m'avait toujours impressionné.
Qui était chef annonceur à Radio-Canada à ce moment.
Exactement. Et puis, il venait de Sainte-Marie-de-Beauce. Mm-hmm. Ma mère venait de Sainte-Marie-de-Beauce. Alors, le juin, c'est là que ça s'est fait. J'ai dit, si lui est devenu annonceur à Radio-Canada, et moi, avec les minces capacités que j'ai, le front de bœuf que j'avais peut-être... Alors, je me suis présenté à Radio-Canada. On a dit, oui, on vous accepterait, mais à Winnipeg. Oh là là! J'avais un enfant déjà ici à Montréal. Alors, non, j'ai postulé, puis je suis allé à CHLP. Je ne sais pas si ça dit quelque chose pour les vieux auditeurs, parce qu'à Ville-Marie, vous avez de vieux auditeurs, quelques-uns peut-être. Alors, j'étais à CHLP, la patrie. Et de la patrie, je suis passé à CHLT. La Tribune à Sherbrooke.
Oui.
Et quelques mois à Sherbrooke, je suis revenu à Montréal.
Où vous êtes entré à CKVL.
À CKVL.
Vous avez tout fait ça avec amour, dirait et vous chanterait Monique Gaube. La voici dans cette adaptation de To Sir With Love de Lulu avec amour.
De tout un moi, je ne crois pas avoir pensé à lui. Je m'aperçois que malgré moi, peu à peu, je l'oublie. Pourtant, j'avais cru longtemps que jamais plus ma vie ne serait comme avant. Mais tout s'efface au fil du temps. J'ai le cœur un détour. Mes yeux découvrent un autre espoir enfin. Le
les mots que je croyais vains me reviennent aux lèvres tout comme un refrain. Non, les leçons ne servent à rien.
C'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau.
C'est beau d'entendre Monique Gaube.
Oh, ça me rappelle des souvenirs. Très peu, parce que ça fait tellement longtemps. Et j'ai commencé à la télévision en 1953.
Oui, parce que vous avez fait une carrière parallèle comme comédien.
Oui, mais si peu. Dans beaucoup de choses, mais si peu.
Mais vous dites si peu. Dès 1956, vous jouez dans la série « Quoi tu as » à l'antenne de Radio-Canada, dans un épisode qui a pour titre « La chaise à Pepère ». Vous jouez le rôle de Marco Ouellette.
Avec, comment il s'appelait, celui qui était le leader de... Oh.
Je ne pourrais dire. Vous avez joué ensuite presque annuellement dans différentes séries, que ce soit « La rivière perdue »,« Je vous ai tant aimé », »,« Ouragan », »,« Fille d'Ève », le fameux feuilleton des années 60, où vous interprétiez le rôle d'un policier. Et ça s'est terminé aussi avec Maria Chapdelaine en 85.
Aïe, 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 aïe.
Vous jouiez le père Bouchard. Beaucoup de petits rôles.
Exactement. Mais au tout début, la télévision noir et blanc, j'étais à l'écran en 1953, quand ça a commencé, la TV, ou à peu près. J'étais un an animateur de « La vie qui bat ».
Ah, tiens!
À la place de... C'est Guy Provost qui a pris ma place.
Oui.
Mais moi, j'étais... Je souffrais le martyr quand j'ai fait ça. Mais je recevais de l'argent. J'étais orgueilleux, fier, prétentieux, voilà. Mais j'étais pas fait pour ça. J'ai pas de mémoire. Alors, je devais apprendre 32, 35 pages de texte pour dire que le petit papillon qui vient de la... Oh. Quelle tristesse. Mais j'étais malheureux.
Donc, vous avez précédé Guy Provost.
Exactement.
Il y avait une autre émission qui était animée aussi par Jean Coutu, sur demande, qui était dans un autre, peut-être, éventail, où on faisait part des choses assez inusitées qui pouvaient survenir sur la planète, alors que La vie qui bat parlait de la nature.
Exactement. J'avais des gobos, on appelait ça des gobos. Oui. Les papillons se promenaient là-dedans. Il y avait quatre caméras, les grosses caméras d'autrefois, là.
Et on a parlé tantôt de Maria Chapdelaine,
oui,
où vous jouiez le rôle du père Bouchard, un film de Gilles Carle.
Oui.
On va écouter, si vous voulez bien, et ça va terminer notre premier bloc d'émission, Une journée d'été sur la ferme Chapdelaine, la musique composée pour ce film de Gilles Carle par Lewis Furry.
Thank you.